Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnessmiss.fr. On démarre. Nouvel épisode aujourd'hui, une interview inédite avec Mousse Mégatron, un bodybuilder qui est expatrié aux États-Unis, donc français expatrié aux États-Unis, qui a monté sa salle de sport, qui a récolté pas mal de trophées. Et on va rentrer dans sa vie, dans son histoire, où il va nous parler de tout, même des côtés les plus sombres. Donc, n'oubliez pas que ce podcast est à titre d'information et en aucun cas a pour but de vous recommander de faire telle ou telle chose. Prenez-le comme ça. Donc, je vous laisse pour cette grande interview qui sera en deux parties et régalez-vous bien. Salut Mousse, comment vas-tu ?
Ben, je vais très bien. Salut Théo, je te remercie énormément de m'avoir invité sur ton show. C'est un honneur.
Ben, l'honneur est pour moi et partagé, je pense, avec tous ceux qui vont nous écouter. Je leur avais dit que peut-être si j'arrivais à t'avoir, on ferait un épisode ensemble. Et je suis vraiment content que t'aies répondu. On va faire, si tu veux, une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaîtraient pas?
Mousse El Bakouchi, je suis né au Maroc et j'ai passé 26 ans à Paris et maintenant ça fait 7 ans que je vis aux États-Unis à Portland dans l'Oregon. Bon, je suis pas loin du Canada et je suis pas loin de Los Angeles non plus. Pratiquant du culturisme depuis l'âge de 15 ans. Où à la base c'était les arts martiaux comme énormément de gens, donc j'étais un fan de Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, donc mais j'étais très chétif, 53 kilos, donc il fallait absolument prendre un petit peu de force, un petit peu de muscles pour pouvoir continuer les arts martiaux. Et bon, bah comme pas mal de personnes encore, je me suis piqué au jeu. J'ai eu de la chance de démarrer dans une vraie école de musculation et ça c'est très important pour moi.
Quand je dis une...
exactement, une école, c'est une école où on m'a appris à m'entraîner. C'est ça le plus important. On m'a appris à m'entraîner et surtout à être éduqué et rêvé. Donc, c'était l'école Serge Nouvray. Ah, c'est là où j'ai démarré avec mon papa Guy Ignace, qui a été plusieurs fois champion de France, Europe, des titres internationaux. Donc, j'ai eu bien la chance de démarrer avec ces gens-là. J'ai lâché les arts martiaux parce que très vite, j'avais compris que je voulais être le meilleur. Mais être meilleur dans deux disciplines, c'était pas vraiment faisable. Et voilà, j'ai démarré les compétitions à l'âge de... 16 ans, 17 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est que le père faisait des concours interclubs ou juste des concours dans le club avec les gens de la salle. Et c'est très bien ça aussi. Tu vois, il y avait une bonne ambiance, la préparation déjà entre nous et tout. Donc ça, c'était très bien. Après, j'ai commencé à faire le championnat de Paris à la salle à l'Ébé d'Assoir. Et voilà, jusqu'à arriver au championnat de France que j'avais essayé, je crois. Mon premier vrai concours, on va dire, c'était en 2002. C'était le Jubilé de Serge Nouvray.
D'accord.
Et auparavant, j'avais démarré, je crois, un an ou deux ans après. Bon, j'avais une hernie discale. Je suis parti voir le médecin. Il m'a dit, monsieur, arrêtez la musculation. Bon, tu sais très bien comment ça se passe en France. Voilà, je ne vais plus, c'est ça, blabla. Et je suis revenu à la salle. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit au père, comment le médecin peut me dire d'arrêter alors que je n'ai même pas commencé. Donc, je vais être plus malin que ça. J'ai arrêté ce qui me faisait mal, le squat, le rowing penché. J'étais pas un gros fan de soulevé de terre, mais j'en faisais quand même. Donc, j'ai arrêté pendant 8 ans, renforcé énormément mon bas du dos et mes abdominaux vraiment pour créer un corps vraiment très solide. Et en 2002, je voulais faire la surprise à mon père parce que, il pensait que c'était fini, que j'allais jamais rien faire. Et quand le jubilé de Serge Nouvray est arrivé, je me suis dit, hop, c'est l'occasion de faire quelque chose. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai gagné avec 4 concours en un seul, dans le premier pas spécial Serge Nouvray Grand Prix où il fallait que le tour d'épaule fasse le double tour de taille.
Ouais, ce qui n'existe plus, ça, aujourd'hui.
Serge Nouvray faisait ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce Grand Prix, plus le concours du Val d'Oise, plus un concours national. Donc j'ai gagné les trois premiers et au niveau national, j'ai terminé deuxième après Arnaud Borgon, qui venait de faire cinquième au championnat du monde. Donc c'était là où les gens m'ont découvert, c'était vraiment en 2002. Et après j'ai enchaîné sur France à la FCPS, qui était là-bas à l'époque. Donc j'ai fait toujours le podium, troisième, deuxième, troisième, deuxième. Mais j'avais beaucoup de mal en fait à rééquilibrer entre le haut et le bas. J'avais toujours une bonne définition au niveau du haut, mais le bas malheureusement non. Bah, encore à cause de mes problèmes, l'hernie discale et tout ça, donc je pouvais pas vraiment m'entraîner comme je voulais. Acharné comme je suis, j'ai tout fait jusqu'à 2007. 2007, là, j'ai sorti le grand jeu. Tout était nickel, de la tête aux pieds. Donc, ça m'a permis d'être champion de France, toute catégorie. En 2007, j'étais sélectionné pour le championnat du monde Naba. Donc, je suis parti, je crois, 2 mois après en Grèce, à Sparte, où j'ai gagné de toute catégorie. Et après ça, bon voilà, j'ai enchaîné sur le titre le plus prestigieux et dont je suis vraiment très fier, c'est faire Mister Univers en Angleterre sur le même plateau que mon idole et l'idole d'énormément de gens, Arnold Schwarzenegger l'a fait. Donc j'ai fait 3 fois de suite, je me suis classé première fois cinquième, 2 fois de suite, cinquième et quatrième, ça sont mes meilleurs classements. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bah tiens, les États-Unis, pourquoi pas? Peut-être, j'ai toujours dit que les Américains, ils avaient 2 têtes, 4 bras et 6 jambes. Pourquoi pas à eux? Mais c'était très compliqué parce que, tu sais, bon, avec les fédérations en France, t'entends, oui, c'est pas possible d'aller là-bas, il faut l'autorisation de celui-là, de celle-là. Avec ma femme, on s'est renseigné, on avait tout de suite compris qu'au moment, ici, t'as l'oseille, tu viens, tu paies ta carte NPC, tu fais tous les concours que tu veux. Ici, chaque semaine, il y a un concours. Donc, j'ai choisi comme, j'ai pas été choisi quelque chose de facile juste pour venir briller. J'ai choisi l'Excalibur, qui est à Culver City, qui est à 15 minutes du Gold Gym de Venise. C'est un concours très, très réputé. Et en plus, il est qualificatif pour les nationaux. Je suis arrivé et boum, je gagne le super heavyweight. Et là, bon, j'étais pas impressionné. Je disais, voilà, quand t'as été champion du monde de France, que t'as été au niveau international à Ouaba, au niveau international là-bas, c'est pas les concours NPC qui vont me faire peur. Les États-Unis, c'est gros, mais ça reste à niveau national. J'avais largement les moyens de remporter les toutes catégories, mais on fait comprendre dans les vestiaires, entre guillemets, gentiment, qu'il fallait déjà que je sois content de remporter ma catégorie, parce que le toute catégorie va rester ici aux États-Unis. Enfin, moi, j'étais un petit peu énervé, mais avec le temps, j'ai compris. C'est normal. Je suis juste un touriste pour eux. Je fais le concours. Si je gagne, je suis qualifié pour les nationaux. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il faut être résident américain. C'est normal. Ils vont pas me donner à moi et empêcher un Américain sur place pour pouvoir lui donner la chance. Donc, ils lui ont donné à Brad Rowe, qui est maintenant au niveau Olympia, qui fait les compétitions en 212. Je suis revenu après en 2011 avec mon ami Christian Lacoche, qui a été champion du monde Naba, qui était Mister Univers Naba, je crois, taille moyenne ou quelque chose comme ça. Bon, bah, là, 2 Français arrivent. Là, je peux dire que les gens, à ce jour-là, tout le monde se disait qu'on était professionnels et qu'est-ce qu'on faisait là. Donc, mais simplement après, voilà, c'est la même chose. Donc là, les juges, je pense que dans leur tête, ça a dû vite, vite, vite tourner. Comment on va faire pour les éliminer et que il n'y a pas de toute catégorie? Donc, moi, qui étais chez les lourds, hop, on m'élimine, je termine deuxième par hasard. Christian, qui était magnifique, il gagne chez les vétérans, il gagne dans sa catégorie dans l'Open, et en toute catégorie, il se retrouve avec le mec qui m'a battu. Donc là, c'est très facile, donc ils l'ont éliminé. Parce que si je gagne, et lui, il gagne en toute catégorie, il a déjà 2 Français. C'est soit lui. Donc voilà, et après ça, ma femme a travaillé en fait pendant 5 ans chez Reebok. De chez Reebok, a travaillé pour une société américaine tout en étant en France qui s'appelle Icon. Où il a, c'est une Icon en fait, c'est eux qui font Free Motion. Je ne sais pas si tu connais le matériel. Donc elle a, et Claire en fait avait créé tout le côté textile sur toute l'Europe. Et après, elle a été recrutée par des chasseurs de tête de chez Nike. Pareil, elle aussi n'a jamais voulu vraiment travailler chez Nike, elle n'a jamais voulu vraiment faire partie de cette mentalité de ces américaines. On est les meilleurs, on est the best. tu vois, c'est Nike aussi. Mais voilà, donc la proposition est arrivée. Elle est partie ici, elle est venue ici aux États-Unis et je crois que j'ai reçu un coup de téléphone. Elle me dit, écoute, je crois que pour de vrai, va falloir que tu prépares tes valises. Et moi qui a toujours rêvé, qui lui a toujours dit, ouais, il n'y a pas de souci, si un jour l'occasion, l'opportunité se présente, je suis prêt. Simplement, quand tu reçois le coup de
Le
téléphone, là, tu
choc.
reçois, ah ben, c'est le choc. C'est 2 mois que je suis resté, je crois, je bégayais. Tout de suite dans ma tête, mais attends, j'ai mes repères ici, j'ai mon boulot ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je parle pas l'anglais.
Surtout pour les ceux qui s'entraînent et tout, on a une certaine condition de vie, on est justement, on s'est déstressé de toutes ces habitudes pour s'en recréer, c'est hyper compliqué quoi.
Bah c'est clair, et surtout tu sais la langue. Ouais. J'avais 38 ans, donc tu dis mais comment je vais faire? Tu sais, franchement oui, j'étais tétanisé. Le rêve et tout ça, le gold gym, tout ouais. ça, c'était zappé. Et c'est grâce à mes amis qui m'ont ouvert, dit monsieur Mousse, c'est ta chance, tu attendais ça toute ta vie. Arrête avec ça, il va falloir sauter. C'est l'occasion ou jamais. Mais entre-temps, tu sais, pendant pas mal d'années, moi, j'étais portier, j'ai fait de la protection rapprochée, j'ai tout fait. La sécurité, je n'ai jamais été vers la sécurité est venue vers moi.
Mais je fais le même boulot, hein.
Voilà, c'est la première fois, je m'entraînais à Paris, c'était le World Gym avec mon partenaire, et j'ai un mec qui est venu me voir, me dit, ça vous dit de gagner de l'argent facilement? On s'en regardait, bah oui, c'est tout dépend quoi. Bah, j'ai besoin du monde pour le festival de jazz à la Villette. Mm. Donc, on a démarré. Ok, c'était cool. À cette époque-là, je travaillais, j'étais responsable de rayon à l'Enterprise à Père-Lachaise. Donc, j'ai commencé à faire les deux en même temps. Je suis passé un jour faire le premier festival de rock au Parc des Princes avec une autre société. Et là, ma femme est smart toujours. Ils m'ont mis devant une porte qui était cadenassée, fermée. Pendant 6 heures, je n'ai pas branché. Je n'ai pas bougé. Et simplement, comme si c'était un grand festival, t'avais au moins, je crois, 3-4 boîtes de sécurité qui travaillaient en même temps. Mmh. Et là, c'était la propre boîte du Paris Saint-Germain qui travaille avec le footballeur qui sont venus me voir. Ils me disent, monsieur, ça fait quasiment toute la journée qu'on vous observe. Vous n'avez pas bougé et on aime ça. Est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous? Je dis, pourquoi pas? Et là, c'est démarrer le camp de loge, partir avec le Paris Saint-Germain, partant en déplacement, faire tout ce qui était grande école de, tu sais, HEC, Polytechnique, donc je faisais toutes les soirées. Et par ma réputation, par mon sérieux, pas par mon gabarit où j'étais un bagarre ou quoi que ce soit, j'ai fait une bonne réputation et j'avais toujours des bons plans, des gens qui m'appelaient. Et après, de là, j'ai commencé à être responsable de la boîte des étoiles qui est à Château d'Eau, c'est une boîte de salsa. Je travaille trois fois par semaine, je commence à bien gagner ma vie, j'ai arrêté mon boulot de la journée, mais tout ça, en fait, l'idée derrière, c'était, ok.
Je veux du temps.
Exactement, voilà. le but, c'était ça. Tu seras jamais payé la journée de la même façon que la nuit, surtout quand t'as pas fait d'études vraiment, quand t'as pas vraiment de diplôme et tout ça. Donc là, je gagnais bien ma vie, mais j'avais toute la journée devant moi pour m'entraîner, me reposer, faire mes courses et tout ça. C'était très dur la nuit. C'était très, très dur parce que des fois, tu sais, quand t'enchaînes cancer sur boîte de nuit, tu sais, ça te fait commencer à 5 heures d'après-midi jusqu'à le lendemain 8 heures, 9 heures. Je peux dire qu'il faut être costaud. Et en plus, après, je partais directement m'entraîner.
Et ouais. Bon. Ben j'ai connu ça, j'ai fait ça pendant 6 ans, moi, travail de nuit dans la sécurité, justement. Et c'est vrai que le travail de nuit, c'est quand même compliqué en termes de on est complètement dévarié, en fait. La résistance, vers 2-3 heures du matin, ça devient hyper hard. Et puis après, à 7 heures, quand le soleil se lève, on n'arrive plus à dormir. C'est vraiment un rythme à part. Et s'entraîner et tout, voilà, il faut être conditionné. Mais par contre, ça laisse du temps. Et on est un petit peu décalé par rapport aux autres. Il y a personne pour aller faire ses courses, on est peinard. Dans les salles, il y a personne. Mais bon, c'est un rythme de vie, quoi. Et puis, ça paye un peu mieux.
Mais j'avais tellement l'objectif que rien ne pouvait m'arrêter. Je ne voyais que le bon côté. Je ne voyais pas le mauvais côté. Tu vois, parce qu'en plus, voilà, j'étais jeune et tout. Donc, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. J'étais dans mon studio tout seul. Donc, je gérais tout. Voilà. C'était assez d'argent pour pouvoir me payer ma nourriture, mes suppléments, la salle, ma voiture. Tu vois, tout ça. Donc, tout était calculé. C'est tout ça. OK. J'aime l'entraînement. J'ai pas eu la chance. D'avoir des parents en vie et qui me poussent pour faire des études et tout ça. Donc, grâce au sport, je vais être quelqu'un un jour. Je savais pas quoi, mais je savais que j'avais, les Américains de work ethic, le travail en moi. Voilà, je n'avais pas peur du travail. Donc, et quand j'ai rencontré, en fait, ma femme au début, bon, tu sais, elle est business woman, elle, ça a toujours été sa question. Quel est ton plan B?
Ouais.
La question qui m'énervait, parce que plan B, tu me parles de Colombe, non, pour l'instant, je fais des compétitions, je travaille. Oui, mais un jour, demain, t'es blessé, t'arrêtes, les compétitions, ça donne pas. C'est quoi ton plan B? Et je veux dire, ça m'a cassé la tête pendant au moins un an.
La question angoissante, quoi.
Oui, pour le moment, je la prenais comme une attaque. Et c'est là, on s'est dit, tiens, c'est vrai que j'aurais bien aimé être patron de ma propre salle. Donc, on a commencé à se renseigner, on est parti à Los Angeles, on s'est renseigné avec Gold Gym pour avoir une franchise. J'avais rencontré, en fait, un homme d'affaires qui était aussi intéressé. Ma femme, à l'époque, elle habitait dans 91 à Bure-sur-Yvette. Ils avaient déjà j'ai oublié le nom du club. Un moving. À mon vieux grand-père, tu vois, superbe endroit, donc on se vit avec eux pour occuper. J'étais voir le maire, donc il y avait moyen de récupérer le local et tout ça. Bon, tout ça après est tombé dans l'eau, divorce. Lui, bon, ils se sont séparés, il est parti habiter en Corse, donc le plan est tombé dans l'eau. Et sachant que ma femme vient avec son passé de textile, Reebok et tout ça, on a fait des recherches et on est tombé sur la marque Gas Bébé Torbonise, qui n'avait pas de distributeur en France. Donc voilà, donc on les a contactés, on leur a dit qu'on était intéressés pour la distribution. Et voilà, j'ai ouvert ma société Bodyside, Fitside, où j'avais deux sociétés, une de distribution, donc j'étais le seul distributeur en France sur tous les magasins, et j'avais mon site internet où je vendais du Gasp, du Under Armour, du Chic, c'est pour les accessoires, la marque que ma femme avait faite avec Icon qui s'appelait Proform. Donc voilà, grâce à elle, j'ai commencé un petit peu à réfléchir mieux, et surtout que la société a duré un an avant de partir ici aux États-Unis. Bah, ça m'a permis, au fait, vu qu'en France il n'y a pas de sponsor, parce qu'ils me font tous rigoler aujourd'hui, sponsor un sponsor. Pour moi, un sponsor, c'est l'oseille. C'est pas juste donner une
Ouais, un
boîte
coup
de
de prod, ouais.
absolument. Donc j'étais mon propre sponsor. Je me versais pas de salaire, parce que bon, tu sais, la France avec les taxes et tout ça, tu commences à te faire un salaire, t'es mort. Mais par contre, voilà, ça payait mon gaz, ça payait mes déplacements à Los Angeles, ça payait tout. Donc c'était pénard. Et ben, juste au moment où la société a commencé à vraiment bien, bien prendre, et que je dis, le coup de téléphone est arrivé pour que je prépare mes valises. Donc, on a arrêté. J'étais en préparation pour Mister Univers en 2011. Ma femme est arrivée ici 2 mois avant moi. Et pour ne pas que je change mes habitudes et que je reste concentré sur mon objectif, je serai ici tout seul. J'ai fini le concours. Et après, voilà, le temps de rendre l'appartement, de faire ses valises et tout ça, je suis arrivé ici. Donc, arrivé ici, je peux dire, je crois, elle m'a récupéré à l'aéroport comme un enfant perdu.
Tu m'étonnes.
J'étais avec mon petit sac à dos, et tu sais, bon, en plus, j'arrive à Portland. Moi, j'ai jamais entendu parler de Portland. Moi, tout ce que je connais, c'est Las Vegas, la Californie, donc le soleil, les bougies. Là, j'arrive, il pleut. On aurait dit quoi? C'est la Bretagne ici ou quoi? Donc moi, je suis arrivé en décembre. Je suis en décembre, fin décembre 2011. Bon, ma femme, elle travaillait déjà, donc moi, je me suis retrouvé tout seul. Bon, au début, c'était bien parce que je me suis occupé de la maison pour tout mettre en place. Le conteneur est arrivé et tout. Et du coup, je crois, après une semaine, là, elle m'a dit, bon, bah, écoute, la semaine prochaine, t'as une prof d'anglais qui arrive. C'est 2 heures par jour, 5 fois par semaine.
Nickel,
Là,
intense.
Théo, c'était le cauchemar. J'arrivais à me concentrer pendant 10-15 minutes, mais après ça, c'était la semoule. C'était juste un enfer. En plus, la prof était un petit peu conne. Elle voulait vraiment que j'apprenne les 700 verbes. Personne ne connaît 700 verbes. Moi, ce que j'ai besoin, c'est juste déjà les mots qu'on utilise tous les jours pour communiquer.
Ouais, te faire
Donc,
comprendre et
je suis...
comprendre le minimum, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et avant que j'arrive, j'avais dit à Claire, essaye de regarder pour moi, important, si tu trouves un bon coach réputé, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre, et pourquoi pas. Donc, on est tombé sur Noël Fowler, qui était préparateur de pas mal de mecs qui ont fait Olympia dans les années 80 et tout ça. Donc, quand je suis arrivé, bon, bah, j'ai été le voir. J'étais sous le choc, quand je suis arrivé dans la salle. Il y avait des fuites dans le plafond, de la moquette pourrie, des mecs tout chelous qui sont en train de driver des camionneurs. Je dis, mais c'est pas ça, les États-Unis, pour moi. J'ai pas rêvé de ça. Mais bon, j'ai dépassé ça. Je lui avais demandé quel était le concours le plus gros, le plus important qu'ils avaient ici. Ben, il m'a dit, écoute, on est à 5 mois de l'Emerald Cup qui est à Seattle. Il m'a dit, c'est le plus gros. Je dis, OK, allons-y. On va le préparer. Et là, c'était la meilleure préparation dans ma vie, dans le sens, je ne travaillais pas, je faisais rien, c'était juste, je mangeais, je dormais, je m'entraînais. Le
Et
rêve.
qu'est-ce que là, la question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu as remarqué de différent par rapport à tout ça? Que ce soit la préparation que tu as reçue de ton coach, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a dit, ah, c'est vraiment différent de la France?
Bah déjà, écoute, j'avais rêvé des États-Unis depuis que j'ai découvert la musculation. Donc j'y suis. Tu vois, il m'a fallu du temps un petit peu, mais j'y suis. Ce qui était différent, c'est que bah déjà, c'est le fait de pouvoir se concentrer sur un seul objectif, ne pas se soucier d'aller travailler, de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'était juste, OK, l'objectif, c'était de leur montrer qui je suis. Parce que là, les États-Unis, c'est tellement énorme. OK, championne de France, d'accord. Championne du monde, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait ici sur le sol? C'est pour ça que c'est un gros concours. Tu vois, mais non, tout était différent. Tu sais, je pouvais aller dans les centres commerciaux, acheter vraiment ce que je voulais, trouver les suppléments que je voulais. tout était là. Voilà, ça commençait déjà. Bon, bah, j'avais vendu ma voiture, j'avais de l'argent comme de côté. Je voulais vraiment une voiture américaine. Je me paye un Chevrolet Avalanche customisé en Californie avec des roues qui font au moins un mètre. Tu vois, bon, c'était déjà le rêve américain qui démarre.
Et
Tu
ouais.
vois, donc, je parlais pas anglais. Je mettais l'adresse de la salle dans GPS. Je conduisais, j'arrivais à la salle. On pouvait pas communiquer tous les deux. Donc, c'était good, good, good. Voilà. On s'entraînait. Donc, je me suis entraîné avec lui, mais bon, au bout de 3 semaines, j'ai vu que c'était pas ça. Ce n'est pas ce que j'attendais. Ces méthodes et tout ça, c'était pas ce qui me convenait. Bon, au niveau d'entraînement, c'était du lourd d'entrée de jeu. Les entraînements duraient 20 minutes. Il m'assistait presque depuis le début. Et surtout que je n'avais pas de diète. Alors, je parlais pas. J'avais dit à ma femme, tu peux demander à Noël, j'attends toujours ma diète. Et quand on lui a dit, il dit, non, non, tu sais, on a été au bureau, voilà, tu manges 300 grammes de prot, 400 grammes de carbs, zéro fat. Donc, j'ai compris, OK,
Old school.
je vais prendre les choses en contrôle.
Ouais.
D'accord. Au niveau d'entraînement, je lui dis, OK, tu dis à Noël que je sais m'entraîner, j'ai besoin de lui juste pour m'assister.
D'accord.
Voilà. Le fait d'avoir quelqu'un derrière moi, c'est ça que j'aime, la relation entre coach et
Ouais.
athlète, c'est d'avoir quelqu'un derrière mes épaules, tu vois, qui observe. J'ai besoin d'avoir cette confiance. Après, moi, je me dépasse, je me surpasse tout seul. Donc, je commence à m'entraîner tout ça. Entre-temps, je m'étais inscrit chez 24 heures fitness parce que c'était beaucoup plus près de chez moi que lui, alors que lui, il fallait quasiment tous les jours 1 heure pour y aller. Et au fur et à mesure, bah, tu sais, en plus, je sortais d'univers. Donc, pendant 2 mois, je mangeais pas vraiment. J'étais à compter ça toute la journée. Je me baladais, je faisais mes affaires, tout ce que j'avais à faire pour l'appartement, pour mon arrivée ici aux États-Unis. Donc là, je redémarre la préparation. Tout répond très bien. Il a la confiance, était là. J'ai jamais été aussi confiant que ça. Et comme lui, il a commencé à faire ma publicité sur les forums américains, comme le Muscular Development et tout ça, il y a beaucoup de gens. Ah, il y a un Français qui arrive. Et mon partenaire d'entraînement, qui est un des plus grands coachs maintenant aux États-Unis, Matt Porter, et sa femme connaissent très bien le Sherman et ils lui ont envoyé des photos de moi et il lui a dit OK. Un jour, il avait posté je crois, sur Facebook, en disant, les gars, je connais déjà le gagnant, c'est un Français, commencez déjà à apprendre le français. Et donc, c'est ce fameux Sherman qui m'a donné le surnom de Mégatron.
D'accord. OK.
Donc voilà, c'est bon, je fais le concours et boum, je gagne ma catégorie, je gagne toute catégorie. Le seul Européen après 30 ans d'existence de ce concours qui gagne de premier coup. Énormément ont essayé la première fois, la deuxième fois. Donc je suis très fier de ça parce que j'ai mis mon nom, tu vois, dans l'histoire de cette grosse compétition. Et je me rappelle, on était parti après pour la première fois à Columbus, Ohio, pour l'Arnold Classic. D'ailleurs, la première fois où j'ai rencontré le père, Arnold. Et au retour de Columbus, j'ouvre la boîte à lettres et on tombe sur mon autorisation de travail. Et j'avais déjà eu mon permis parce que tu sais, aux États-Unis, tu peux circuler, tu peux voyager avec ton permis. Donc, en recevant ça, ma femme m'a dit, bon, il est temps de chercher du travail.
Ah
Et
ouais.
encore, je me disais, comment je vais faire pour chercher du travail? Je ne parle pas l'anglais. Non, 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 t'inquiète pas. On y va. Donc, on est parti au 24 ans fitness. Rencontrer le responsable des entraîneurs et c'était marrant, on était tous les trois, moi je parlais pas, c'était ma femme, c'était Claire qui parlait avec le mec. Le mec il me regardait, mais ils m'ont vu pendant la préparation. Tu
Ouais.
vois?
Eux, c'est ce qu'ils
Donc,
veulent de toute façon, c'est l'expérience avant le.
la salle par le gabarit et tout ça, mais ça me dit oui, ok, je vois qu'il est, le gabarit, tout ça, mais comment il va faire pour entraîner les gens? Parce que tu sais, il faut prendre le téléphone, il faut appeler les clients, il faut se présenter, il faut serrer les pinces dans la salle. Il lui a dit, écoute, je ne sais pas, mais je sais qu'il va le faire, t'inquiète pas, ça va marcher. Et du coup, mon premier client, c'était lui. C'est lui
Ah
qui a acheté des entraînements avec moi. J'ai commencé à l'entraîner. Tu sais, quand t'es passionné, t'arrives toujours à trouver un moyen de communiquer. Et le deuxième client, c'était une fille qui était responsable des profs, mais dans la salle concurrente à 24 heures, qui est les fitness.
d'accord.
Elle a commencé à venir, à s'entraîner avec moi tous les jours. Elle a essayé de me récupérer en m'offrant beaucoup plus d'argent pour aller. J'ai dit non, moi, je suis un mec loyal. Ce mec-là m'a donné ma chance. Je resterai ici, je partirai pas. Et voilà, et les gens commençaient à observer, à regarder mon style, parce qu'ils voyaient la majorité des gens, ça s'entraîne et ça part aux toilettes et ça revient. Tu vois, donc ça n'arrêtait pas de. Ils savaient qu'avec moi j'étais hardcore. Et ça m'allait très très bien parce que après connaître le mode américain, comment ça fonctionne, souvent en fait quand tu te payes un coach, c'est plus du babysitting. que vraiment entraîner sérieusement. J'avais dit à mon boss que bah, m'entraîner des gens pour la rééducation, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas moi. M'envoyer des gens juste pour parler de ce qu'ils ont fait hier et ce qu'ils vont faire le week-end prochain, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, les gens, voilà, en me regardant, s'ils aimaient mon style, ils venaient me voir. S'ils n'aimaient pas mon style, restaient éloignés de moi. Ça m'allait très bien. Et voilà. Et tu sais, je pense que le déclic s'est fait vachement vite dans ma tête. OK, j'ai 38 ans. Je suis en train de vivre mon rêve. Tu sais, nous, les Français, souvent, oui, je ne vais pas parler anglais, ils vont se foutre de moi, ils vont se moquer de moi. Je dis, non, je n'ai rien à perdre. Il faut que je me lance. J'ai remarqué que les Américains, ils aiment les gens qui font des efforts. Donc, c'est pas grave. Un mot français, un mot en anglais, mes doigts, ma bouche, tout. Voilà. Et ça, et les gens, tu sais, ils adorent déjà le charme français, l'accent français. Et voilà. Et ça, voilà, je ne me suis pas fait un blocage. Et tout de suite, voilà, j'ai commencé à construire, mon image.
Donc c'est vraiment dans la salle que tu as réussi à apprendre la langue, quoi, finalement, en faisant ton travail de coach.
Exactement, c'est mes clients qui m'ont poussé parce que je leur ai dit, ne soyez pas gênés, n'hésitez pas à me corriger. Vous allez me rendre un grand service.
Ouais, c'était un double coaching, quoi. Toi, tu les coachais physiquement, finalement, et eux, au niveau de la langue, quoi.
Absolument. Donc, et tu sais, voilà, après, tu sais, nous, les Français en général, on est un petit peu open, on rigole, les Américains sont énormément politiquement corrects, il faut faire attention aux mots et tout. Donc, venant d'un Français, tout ce que je pouvais dire, c'est pas grave, il est Français, donc je
Ça
jouais
passe,
sur
ouais.
ça.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, ça a duré 5 ans chez 24 heures comme ça. Après 2012, je pensais que le fait d'être ici maintenant, que je pouvais faire les nationaux, je donne la carte, la pro
Ah
carte. Donc il y a 5 concours ici, j'ai tout fait, mais bon, non, c'était pas possible. Il fallait avoir la green card, alors que moi j'avais juste le Visa One par rapport à Nike. Et en 2013, le championnat du monde IFBB qui tombe au Maroc. Et ça a toujours été un rêve pour moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai eu la double nationalité. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la France. Mais j'ai toujours rêvé un jour peut-être représenter mon pays d'origine et faire quelque chose au Maroc parce que je commence à avoir beaucoup de gens qui me suivent. Je sais que les gens, c'est vraiment des amoureux de la musculation,
Ouais.
des arts aussi. Donc pourquoi pas? Simplement la même chose, voilà, tu sais. Au Maroc, c'est pareil, c'est le dirham qui parle, hein, tu sais, c'est le bakchich, hein, si tu donnes pas, ça marche pas. Donc, pendant 2 ans, j'ai pas arrêté de courir derrière le président pour me donner l'autorisation de participer. C'était juste un enfer, un enfer. Et, tous mes soucis de santé, entre guillemets, ont démarré en 2013. À mon avis, c'est sûr et certain, j'ai mis une pression énorme pour moi. C'est comme je dis souvent aux gens, et je pense que, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire. Quand je fais des compétitions, moi, c'est question de vie ou de mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est question de vie ou de mort dans le sens, je vais m'investir à 200%.
Ouais, donc si tu sens que ça va mal se passer, tu te vois mourir, quoi. En gros.
Tu sais déjà, dans mon esprit, comment mon esprit est programmé, je refuse l'échec. L'échec n'existe pas quand je démarre quelque chose. Et tu vois ça, je l'ai appris énormément, c'est par Arnold et sa façon de penser. Tu vois, l'auto-visualisation, le rêve, voir toujours gros. Je me rappelle toujours de cet article sur les biceps où il disait, quand j'entraîne mes biceps, je n'imagine pas que mes biceps font 50 cm. Parce que s'ils font 5, si je me focalise sur 50 cm, le jour où j'arrive à 50 cm, c'est terminé. Ils ne pourront pas le grossir. Mais par contre, il imaginait ses biceps gros comme des montagnes. Une montagne qui remplissait la salle. Une montagne n'a pas de limite. Tu vois la façon déjà de réfléchir. Donc voilà, quand je démarre quelque chose, il n'y a pas de raison. Je vais me convaincre, ça va marcher. Ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Tu commences, oui, mais peut-être, ça va donner à moitié. Voilà. Donc j'ai fait ça toute ma carrière. Ça va marcher. Il n'y a pas droit à l'échec. Donc quand je dis sérieux, voilà, c'est tout ce que je faisais était à fond. Et j'ai un grand tableau qui est dans mon salon. L'essentiel n'est pas de réussir, mais d'essayer. Et ça veut tout dire. Parce que quand tu as essayé, quand tu as tout donné, si tu as réussi, tu as réussi. Si tu n'as pas réussi, il n'y a pas de
Tu regrettes rien de toute façon.
okay. Voilà, il n'y a pas de regret. Tu sais que tu as tout donné.
Ben c'est et donc là du coup au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Que tu par rapport à tout ça, c'est là où tes problèmes de santé arrivent?
Ça a démarré pendant ma préparation, où là, si je commençais à avoir mal aux articulations, c'était une douleur affreuse à chaque fois. C'est comme avoir une rage dedans dans les articulations. Et ça,
Et
j'en.
jamais c'était arrivé avant, c'est vraiment ça.
Non, tu vois, au niveau, je me suis jamais blessé. Et ça, Dieu merci encore, comme je l'avais dit au début, parce que j'ai commencé dans une école, on m'a appris à m'entraîner, on m'a pas appris juste à tirer du poids. J'ai réussi, je pense, très tôt à avoir cette connexion cerveau muscle qu'on n'arrête pas de
Très
répéter,
importante,
mais
ouais.
je comprenne pas ça. À bien m'échauffer, à faire des étirements. La seule chose que j'ai depuis le début, c'est juste mon hernie discale. Et ça, je pense, parce que je suis né avec une scoliose. Et après, à mes débuts, comme j'étais fragile, 53 kilos, faire des squats, pas forcément un petit peu la bonne technique, ça se transforme souvent en good morning
Ouais.
qu'on squat. Donc c'est clair qu'à un moment donné, bon, ça a lâché. Mais là, c'était juste horrible. Si, des douleurs et à un coup, c'est de l'épaule, ça passe au coude, du coude, ça passe au poignet, ça passe au genou. Et c'était on va. À partir de ce moment-là, je savais que si je ne pouvais pas donner 100% tous les jours à la salle, comment veux-tu que je gagne?
Ouais.
Au moment où, c'est l'occasion de ma vie. Parce qu'un championnat au Maroc, peut-être ça va arriver dans, je sais pas, 15 ans ou jamais. Parce que tous les ans, ça change de ville. Mais je voulais quand même y aller. Je savais que je pouvais faire quelque chose. Mais voilà. Mais bon, avec tous les soucis, le fait qu'on me répondait pas, le fait qu'il fallait donner des coups de pression par Raphaël Santora, par le ministre au Maroc, c'était la première fois de ma vie où je démarre une préparation sans savoir si je vais participer ou pas.
Ouais, donc c'est hyper déstabilisant, quoi.
Ah oui, et moi je stresse énormément.
Ouais.
Je stresse énormément. Et là, bon, bah, je commence à faire des analyses du sang, mes adrénales,
Cortisol, ouais.
cortisol n'existait même pas. Les adrénales étaient au plus bas. J'avais ma créatine kinase pareil qui était au plafond. Donc là tout de suite, voilà, je passe plus mon temps à dégrader qu'à anaboliser. Donc c'était juste horrible. Arrivé pour partir au Maroc, donc là pareil c'était un cauchemar. J'avais tous les jours un souci. Je rentre, j'arrive, je perds mes bagages. Moi j'arrive à Paris, mes bagages ils partent à New York. Et bon voilà, c'est il va nous falloir une semaine. Des soucis quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'arrive le jour de la sélection. Par à la fin on me dit que je ne suis pas sélectionné.
Ah, mais c'est
Donc
un
je fais.
canular, quoi.
C'était un canular. C'était la comp. Et comme je le dis souvent, parce que c'est très important, c'est la compétition qui m'a coûté le plus cher parce que je lui disais aux Marocains, je ne vous demande pas de me payer. Je paye tout de ma poste. Tout ce que je veux, c'est représenter le Maroc, représenter le drapeau.
Ouais.
30 000 dollars, ça m'a coûté.
Oh.
Voilà.
Ouais.
Parce que rien que le billet d'avion, pour mettre plus de chances de mon côté, 2 heures d'avion, je ne vais pas, tu sais, voyager dans une boîte de sardines. Donc,
Ouais.
on est parti classe business. Classe business, c'est 5 000 dollars chacun. Donc, 10 000 déjà rien qu'on vit, et puis tu rajoutes la location de maison à Marrakech, la location de voiture, la nourriture, ça allait très très vite. Après, bon, tous les soins que j'ai fait pendant ma préparation, le kiné, les massages, l'acupuncture, donc ça allait très vite. Mais voilà, je mettais vraiment toutes les chances de mon côté. Donc j'arrive là, je dis, on me dit, non, je ne suis pas sélectionné. Là, c'était pas possible pour moi. Je vois ma femme qui commence à pleurer et tout. Je dis, non, écoute, je te donne ma parole d'honneur que j'y serai. J'y serai sur scène parce que je me connais. Je sais que je suis très puissant dans mon milieu. On peut pas m'arrêter. C'est pas des gens qui ne connaissent rien à mon sport, à mon milieu, qui sont là juste à voler les gens, qui vont m'arrêter. Mais je savais derrière que la Fédération française, ils allaient m'ouvrir les portes parce que un an auparavant, grâce à ma société, j'étais le sponsor de l'équipe et surtout j'étais en bonne relation. Et surtout, ils connaissent mes valeurs. Ça a été en international à Ouaba, en international à Nabar, Monde IFBB. Pourquoi pas donc Philippe Echter et Mario m'ont ouvert les bras gentiment. J'ai participé pour la France. Mais à partir de ce moment-là, sachant tous les ennuis que j'ai eu, sachant que je n'étais pas vraiment prêt, là l'objectif était OK. Maintenant, c'était un autre combat. Vous avez voulu m'arrêter? Eh ben, je serai là sur scène. Vous avez sélectionné des Marocains en pensant qu'ils étaient meilleurs que moi? Eh ben, je vais vous montrer que je suis meilleur qu'eux, je vais tous les battre. Parce que je savais que les juges, c'était des juges internationaux parce que c'était un championnat du monde. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai battu tous les Marocains, ceux qui n'ont même pas fait de sélection, qui sont arrivés d'Arabie Saoudite directement, comme par hasard, ils l'ont fait. Ceux qui ont choisi à la sélection à Tanger en disant qu'ils étaient mieux que moi, je les ai battus et j'étais sur scène. Et je suis devenu le héros national au Maroc. Et c'est pareil, tu sais, j'ai une force en moi parce que je me suis dit, OK, je connais le Maroc, c'est mon pays. Les gens qui sont là-bas, qui se préparent pour les compétitions, qui n'ont pas les moyens pour payer ces gens-là, on leur interdit, on leur dit non, vous ne vivez pas votre rêve. Moi, je vous montre que si vous savez parler, personne sort aujourd'hui avec Facebook, Instagram et tout ça. Vous pouvez communiquer, vous pouvez parler. Et c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'ai fait 3 vidéos, une en anglais, une en français, une en arabe. Mais vraiment, là, je lui dis tout ce qui est passé par la tête. Et du coup, là-bas, je pense qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, ils avaient peur de moi parce qu'ils savaient pas ce que je pouvais faire.
Ouais.
Voilà, donc j'étais juste jusqu'au bout. J'ai terminé quand même dans le top 10 avec on m'a dit avec tous ces soucis. Je suis vraiment content de ça. Et mais c'était la compétition qu'il fallait pas faire parce que voilà le combat était juste énorme. J'ai pas voulu lâcher par mon côté teigneux. J'étais jusqu'au bout, mais ma santé a pris un coup parce que tu sais quand t'as les adrénales qui baissent pour les faire remonter. Bonjour.
Ouais.
Bonjour. Donc à partir de là, on s'est dit bah ok avec ma femme, bon bah je pense que maintenant il va falloir arrêter, se concentrer pour construire une famille. Là, c'était pas facile non plus. Ça a pris quasiment un an.
D'accord.
Et comme tu sais, moi j'ai pas peur, je suis pas peur ni honte de parler des choses que beaucoup de gens s'y rencontrent. C'est que bah voilà, on fait des tests la première fois, ça marche pas au niveau spermogramme, il était vide. Deuxième fois, pareil. Là, je me rappelle, j'étais chez le médecin, j'ai commencé à pleurer parce que pour moi, c'était très important d'avoir ma propre famille, car j'étais un orphelin, j'ai jamais eu de famille, je sais pas ce que c'est l'amour d'une famille, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué et qui me manque toujours. Et là, me dire que peut-être que ce sera pas possible,
ouais.
C'était juste, voilà, dans la tête. Et je me rappelle, le médecin me regardait en pleurant et il me disait, je suis vraiment désolé. Donc. Quand une affaire, simplement, je me suis dit, OK, est-ce que je n'ai pas été chanceux par rapport à ma carrière de culturiste si on prend des produits dopants? Ou je n'ai pas eu de chance parce que peut-être je suis né stérile?
Ouais. Oui, parce voilà. Que tu pouvais pas avoir la réponse finalement.
Absolument, non, bah, c'est deux fois de suite, pas de nageur.
Oui.
Hey, il n'y a pas d'autre chose à comprendre. Et donc, je continue à faire mon traitement, ce qu'il fallait faire pour relancer. Et là, je me rappelle, j'étais, je crois, à Olympia, où j'en sais où, et j'ai rencontré Hanné Rimbaud, le préparateur de Philippe, que je connaissais déjà auparavant, car elle est très proche de mon business partner au niveau de la salle. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, Hanné, dis-moi, est-ce que dans ta carrière, est-ce que tu as rencontré des athlètes qui ont un taux de testo faible, mais qui ont un taux d'estrogène très élevé? Car jusqu'au jour où je suis arrivé aux États-Unis, ça, c'était mon problème. En France, déjà, j'avais commencé à rencontrer des docteurs et à me poser des questions parce que ça, c'est ma curiosité. Quand je voyais comment je m'entraînais, comment j'étais au point sur ma diète, sur ma supplémentation, que je n'ai jamais été quelqu'un de fou furieux sur les produits anabolisants, juste, OK, je vais en prendre plus, je vais grossir plus. Ça, vraiment, pour moi, c'était vraiment ce qu'on a toujours utilisé, la cerise sur le gâteau. Ma base, c'était l'entraînement. L'entraînement, c'est la stimulation. La récupération, la diète, les suppléments, et pour passer le cap, parce que je suis compétiteur, je veux être le meilleur. Tout le monde en prend. À partir de là, soit tu le fais intelligemment, soit tu es un camp, tu écoutes à droite, à gauche, et tu fais des expériences sur toi. Parce que de toute façon, un culturiste, tout ce qu'on fait, c'est des expériences. Il n'y a pas d'études sur ça. Les études qu'on fait sur les produits de pont, c'est des autres sports, c'est tout le monde, tu vois, mais sur les culturistes, on est nos propres cobayes. Voilà. Donc j'ai oublié où j'en étais.
Oui, là tu parlais de Hanné Rimbaud que tu lui as demandé s'il avait déjà vu.
Ouais. Donc simplement voilà, quand j'ai commencé à travailler avec ce médecin en fait, mon taux d'estradiol, qui est l'estrogène, je crois par rapport à la norme du lab, ils étaient le maximum était de 26. Moi je fais les analyses, j'étais à 190.
Oh.
Donc un gros risque de développer un cancer de la prostate.
D'accord.
Ça veut dire en fait que soit ma propre testostérone, ou soit les produits que je prends de l'autre côté, au lieu que ça part dans le bon côté, eh ben, ça part dans le mauvais côté, ça part plus sur l'estrogène.
D'accord.
Je pense que ça ne part pas beaucoup en DHT non plus. Donc, il m'a dit, oui, il me dit, j'en connais pas mal. Donc, je lui dis, voilà, le souci que j'ai, du mal à mettre ma femme enceinte. Et il m'a donné un protocole. Il m'a dit, écoute, tu fais ça, et en 21 jours après ça, tu fais des analyses et tu vois ce que ça donne. Donc, je suis exactement ce qu'il m'a dit. 21 jours, on y va. Et là, boum, spermatozoïde demandé.
Nickel.
Donc, voilà. Là, on a sauté sur les fioles.
Tu m'étonnes.
Après, par la grâce de Dieu, j'ai rêvé d'avoir un enfant et le bon Dieu m'en a donné deux. Donc,
Fabuleux.
Ouais, exactement. Donc voilà. Et au même temps,
qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça m'intéresse, là, de savoir. Nous, en fait, on a quand même un sport très égoïste où on pense beaucoup à nous, la diète, la récup, le sport, tout ça, les objectifs aussi personnels, professionnels et tout. Qu'est-ce qui s'est passé quand elles sont arrivées tes jumelles?
Ben, je peux te dire déjà avant ça.
Ouais.
L'année que ça m'a pris pour avoir mes enfants, c'était un enfer.
À quel niveau?
Parce qu'il y a, il y a un arrêt des produits.
D'accord.
Donc, toi, je sais que tu as la tête naturelle et que tous les gens qui te côtoient en général sont naturels, mais c'est très important de savoir aussi ce qui se passe du côté des gens qui ont décidé de prendre des produits
Tout à fait.
Pour des compétitions encore. C'est pour ça que je le dis, j'arrête pas de le répéter. Je respecte énormément les gens qui ont décidé de rester à l'état naturel, de voir jusqu'où où pousser leur propre génétique avec de l'entraînement, avec de la diète, avec la supplémentation. Et aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. Et je respecte énormément les gens qui ont le courage de mettre leur santé en danger. Tu vois, parce que je le dis souvent, il faut avoir le courage de s'enfoncer une aiguille tous les jours dans les fesses.
C'est ça.
Ça,
ouais.
C'est pas donné à tout le monde.
Et,
tu vois.
Et puis de pas être hypochondriaque, de pas trop psychoter sur ce qui peut arriver, etc., etc., quoi.
Absolument. Être quand même un petit peu intelligent, de savoir, ok, tout ce qu'on fait, un jour, ça peut, il faut payer. Tu vois ce que je veux dire? Être conscient de ça. C'est pas, il faut assumer. Ouais. On est des adultes. Il faut assumer. Donc, c'est pour ça que les gens qui n'ont jamais pris, je leur dis de ne jamais, c'est souvent la question de dire, là, quel est le meilleur moment pour en démarrer? Il n'y a pas de meilleur moment. Il faut pas toucher. Voilà. Si vous voulez juste être trop beau, avoir laissé les tablettes, être prêt pour la plage, vous pouvez le faire. Tout est une question du mental. C'est comment tu te prends. Maintenant, sur les compétitions, c'est autre chose. Donc, je n'aime pas les gens qui crachent sur les autres, tu vois, des côtés. Donc, l'année où c'était dur, parce que quand t'arrêtes quand tu prends les produits, tu es super mal.
Ouais.
Tu vois, t'es super mal. Rien ne peut t'arrêter.
Et oui, oui.
Tu sais, c'est des hormones, hein. Donc, toutes tes hormones se multiplient. Donc, effectivement, premièrement, c'est la testostérone. Donc, tu te sens invincible.
C'est ça.
Tu vois, t'es bien dans tes baskets, t'es l'assurance, tu sais, c'est juste extraordinaire.
C'est un antidépresseur de fou.
Bien sûr. Mais quand t'arrêtes ça, et que de Superman, tu deviens ordinaire, ton cerveau ne l'accepte pas. C'est ton corps qui change. Je suis rentré en dépression. Je voyais de la cellulite qui commençait à monter sur mon quadriceps. Moi qui ai mis des années à construire mon corps, je commence à être mou. Si j'avais pas vraiment un mental assez balèze et me dire, ok, tu es en train de voir ton corps en train de se détruire, mais tu le sais pourquoi. C'est pour avoir des enfants. C'est pour avoir ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Donc, il faut que tu tiens.
Ouais.
Tu vois, il faut que tu tiens. Il est hors de question que tu commences à prendre des antidépresseurs ou à être chiant avec ta famille, avec ta femme, et à péter un câble pour un oui, pour un non. C'est clair que tu deviens pressensible, tu pleures pour un oui, pour un non. Parce que c'est pareil. Tu arrêtes, ton testo, il va chuter, ton taux d'estrogène, il va monter, tu deviens émotionnel et tu commences à chialer comme une nana. C'est ce que je veux dire.
Et les douleurs pendant cette période, parce que si tu faisais plus d'oestrogène, t'avais pas tendance à avoir moins mal que...
Ah, j'avais mal parce que j'ai continué à m'entraîner quand même. Je m'entraînais comme je pouvais. Mais là, déjà, c'était affreux parce que c'était une chose de nouveau pour moi. Le fait de ne pas pouvoir m'entraîner et d'avoir mal tous les jours, tu dis que c'est fini pour moi? Est-ce que je vais pas comme ça toute ma vie? Parce qu'en même temps, j'ai continué. Si je faisais des analyses de sang quasiment toutes les 6-8 semaines. Et que le médecin, tu dis, monsieur, voilà, on voit qu'il y a une inflammation dans ton corps, mais on voit pas d'où ça arrive. Et moi, ça, c'est un truc que je peux pas. S'il y a un problème, il faut qu'on me dise le qui, le comment, le pourquoi, pour que j'essaie de trouver une solution. Voilà. Donc, oui, je m'entraînais comme je pouvais. Je voyais mon corps qui se dégradait. Tu rajoutes par-dessus ça, la première fois, tu dis, ben, non, il y a rien. Deuxième fois, il y a rien. Et là, je dis, faut être accroché. Donc, pour arriver au business, John Willy, qui est mon business partner maintenant, a démarré comme mon client à 24 heures fitness, qui a travaillé pendant 12 années avec Anna Rimbaud. Donc, il m'avait demandé de l'aider. Alors, dis-toi bien, un mec qui vient de chez Hani et qui veut travailler avec toi, ça te met une pression énorme. Tu dis, le mec a le meilleur coach au monde et l'autre, il veut travailler avec moi. Mais tout de suite, je l'ai étudié, j'ai compris au fait là où Anna Rimbaud n'était pas fort et là où je pouvais être fort, moi. C'est l'encadrement. C'est l'assurance. Anna Rimbaud, très occupé, Phil Hitz, le business et tout ça. Donc, même si John était son ami, il lui accordait pas l'attention qu'il fallait. Et je me rappelais avant juste qu'il venait me voir. Je crois qu'il était à 3 semaines de la compétition. John lui envoyait des photos, tu sais, pour le checking tous les semaines. Mais en fait, l'autre était occupé, il ne regardait jamais. Donc, 3 semaines avant, il prend les photos. Ah, bah, John, hein, tu vois, t'es encore gras des fessiers, t'es encore gras des issues. Bon, on abandonne, fais pas le concours. C'est dur à accepter.
T'es en pleine prépa, j'imagine. Ouais.
Voilà. Donc, il veut me voir, je dis, OK, il n'y a pas de souci dans ma tête. OK, je vais relever le défi et je vais être plus fort que Annie. Parce que voilà, encore, j'étudie, je savais ce que, là où était le problème. Et voilà, donc, d'un simple client, on a construit, je me rappelle, Claire, je crois, était partie, en voyage en Europe. Et du coup, il lui avait demandé s'il pouvait passer une soirée avec moi. Il n'y avait pas de souci. Il m'avait invité au restaurant. Et là, on a commencé à parler. Et je lui ai raconté un peu ma vie au Maroc, mes galères et tout ça. Et ça l'a énormément touché parce que lui aussi, c'était un enfant qui a été adopté.
D'accord.
Dès qu'il y a une histoire un petit peu, il est aussi sensible que moi. Donc voilà, on a construit vraiment une amitié très, très proche. Et de là, quand mes fils sont arrivés, donc je lui demandais s'il voulait être le parrain d'une de mes filles, il a accepté. Et un jour, on était en train de parler business. Je lui parlais de mon rêve d'un jour d'ouvrir ma salle. Il dit, ben, moi, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de faire une salle. J'ai failli même la faire. Mais après, il y a eu manque de confiance avec les associés, tout ça. Allons-y. Donc voilà, on s'est jeté dessus. Même si lui, en fait, dans son esprit, sa conception de ça, lui, il voyait pas une salle comme on a maintenant. Il voyait juste un petit studio avec, tu sais, 5-10 profs là-dedans. Vraiment ça, minime. Je dis non, ça c'est pas mon rêve. Non, c'est ça, je rêve gros, ça je rêve pas du tout.
Ouais.
Et donc voilà, il m'a laissé confiance et c'est moi qui a tout géré de A à Z. Eh ben, dis-toi bien, à quelle fierté je pouvais avoir, être dans un pays qui n'est pas le mien, un anglais cassé et malgré ça, j'ai réussi vraiment à tout manager parce que voilà, la salle était là pendant 20 ans. Je savais exactement ce que je voulais. Le fait d'avoir voyagé énormément, d'avoir voyagé beaucoup aux États-Unis et d'être vraiment un amoureux de la salle, des machines et tout ça. Je me suis entraîné longtemps avec Milos Archev à Fullerton au fameux Colossum Gym ou Gold Gym de Santa Monica. Donc, j'ai créé exactement la salle que je voulais. Au début, c'était un petit peu dur avec John, dans le sens, en fait, bah, lui, c'est un businessman, il était vice-président d'une grosse compagnie, en fait, qui s'appelle Sage. D'ailleurs, ils ont un siège à Paris, tu le vois d'ailleurs quand t'es sur le périph, il était vice-président. Donc, lui, il voulait, bah, on ouvre la salle, le mois prochain, ça y est, l'argent commence déjà à rentrer.
Ouais. Et oui, le côté business, rentabilité.
Comme un mec, en fait, qui a démarré de rien, il a toujours peur avec l'argent de perdre. Tu sais, alors que moi, et voilà, moi, je suis plus un mec qui veut la réputation. C'est ça qui m'intéresse. Construire quelque chose de grand, construire quelque chose qui a une âme, quelque chose qui va durer. Parce que quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tes émotions et quelque chose de vrai, c'est clair que le côté business va venir. Parce que les gens, ils vont sentir ça.
Ça met un peu plus de temps parce que l'énergie, tu peux pas la mettre dans le marketing et tout.
Exactement.
Mais le bouche à oreille, au bout d'un moment, ça vient et tu te construis sur le long terme.
Les gens, tu ne peux pas les duper. Mm-hmm. Tu vas les duper peut-être le premier mois, le deuxième mois. Mais ces gens-là, ils sont juste là pour se faire de l'oseille.
Ouais.
Voilà. Mais quand c'est l'inverse, ils sont là que t'es là, du jour, tu les conseilles, tu leur donnes du temps, ils sont tous importants et tout. C'est parce que sortent aux États-Unis, c'est la majorité en fait des gens, ils ont 3-4 abonnements dans différentes salles.
Ouais, parce que c'est locaux, c'est pas cher, les abonnements.
C'est même pas ça, c'est juste, c'est un merloc.
Ah, parce que ici, en France, bon, déjà, les abonnements sont plus chers, et, déjà, le budget, les gens réfléchissent, hein, pour mettre en France, 29 € par mois, par exemple, c'est, pour eux, c'est, ils réfléchissent. Alors que peut-être qu'aux États-Unis, c'est pas la même mentalité.
C'est pas la mentalité déjà, parce que ici, faire du sport, c'est tout à fait normal, parce que l'Américain, depuis qu'il est né, il a des coachs, il va au collège, ils ont des coachs, il va au sport, il a des coachs, donc c'est normal. C'est pour ça, souvent d'ailleurs, quand j'étais à 24 heures, je voyais des gens qui venaient me voir, des mousses, question pour combien de fois je dois m'entraîner avec toi? Et ça, c'était très dur pour moi, encore par mon côté honnête. Je dis, écoutez, je veux dire quelque chose, plus tu t'entraînes avec moi, mieux c'est. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas dans ta poche, je ne suis pas dans ton budget. Mmh. Je sais que les entraînements, ils sont pas donnés. Si tu peux t'entraîner avec moi, si tu as les moyens de t'entraîner 3-4 fois, pourquoi pas? Si t'as pas, c'est toi qui gères. Mmh. Je ne vais pas te poser, te dire, il faut absolument que tu t'entraînes 4 fois. Quand je vois un pack, par exemple, je me rappelle, chez 24 heures, les 20 séances, c'était aux alentours de 1 500-1 600 $.
Ah oui.
C'est une paye. Et je vois les mecs qui viennent me voir. Ils ont pas de travail ni rien, mais ils veulent me payer ça. Tu vois comment ça. Alors que chez Chino, jamais de la vie, j'ai pas besoin.
Il
faut d'abord que je paye mon loyer, que je paye les factures et tout ça. Un coach, je n'ai pas besoin. Et le problème en France, c'est que ce ne sont que des conseils. Je ne veux pas payer pour ça. Je peux m'en sortir tout seul. J'ai pas besoin d'un coach.
Ouais.
vois ce que je veux dire?
Ils voient pas le. Pour eux, tout est disponible sur Internet en France et ils ont pas besoin de payer. Ils pensent que.
Sur Internet, bien avant. Ouais. Bien avant. C'est quand je commençais en 2007 à voyager tous les ans, je partais pour la Californie. Je passais 3-4 semaines. Pour moi, je partais à l'université.
Et oui.
Parce qu'en France, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Personne ne pouvait vraiment bien me renseigner, me compte. Tu ne pouvais pas ouvrir Internet, chercher des articles. Bon, la majorité des articles intéressants, c'est en anglais. Je ne comprenais pas. Et comme j'avais cette soif d'apprendre et de connaître, parce que j'étais un casse-tête pour les mecs avec qui j'ai travaillé. J'étais toujours là, le qui, le comment, le pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est comme si je savais un jour, ça allait devenir mon travail. Mais je voulais vraiment comprendre le mécanisme. Tu vois, et souvent, les mecs ne savaient pas me répondre. Donc, je reste frustré.
Ça, voilà. Tu te heurtes à ça quand tu veux être le meilleur, en fait.
Absolument. Il y avait des choses que je savais, mais il me fallait, tu sais, le coup de tampon final, approuvé. Donc, tu avais toujours le doute, est-ce que ce que je sais, c'est vraiment ça?
Ouais.
Voilà. Donc, quand j'ai commencé à voyager, là, c'est autre chose. Même si c'était difficile, parce que tu sais, t'arrives au début aux États-Unis, tu poses des questions, t'es curieux, les mecs, voilà, ils te connaissent pas, ils vont pas te dire. Je me rappelle la première fois, j'avais demandé à Chris Cormier, je crois que je lui ai demandé, je sais pas, des conseils, je crois, sur quoi. Il m'a dit, oui, c'est tout simple, prends de la whey après ton entraînement.
Ah oui, d'accord.
J'ai besoin de faire 7000 bornes pour venir te demander de prendre de la whey après l'entraînement. C'est comme si je savais pas. Tu vois, c'était rigolo. Mais les gens me disaient, oui, Mousse, quand même, t'as un sacré palmarès et tout ça. Pourquoi tu vas là-bas? Je dis, mais non, parce que personne ne sait tout.
Oui, oui.
Besoin d'apprendre plus.
Et on en apprend toujours, de toute façon.
Bien sûr. Donc,
La salle a démarré avec ton associé.
La salle a démarré où c'était pareil, un stress énorme.
Donc la salle, juste pour info, c'est Willpower Gym, c'est ça?
Willpower Gym, donc c'est moi qui a trouvé le nom, c'est moi qui a mis le logo. Donc l'intérieur du logo, c'est moi avec ma fameuse pose de l'Imrad Cup. Les montagnes derrière, ça représente un petit clin d'œil au Maroc qui sont l'Atlas.
Ouais.
Et pourquoi le Will? Ben le Will, c'est ce qui a toujours fait de moi ce que je suis, la volonté. Donc c'est la force de la volonté. Voilà. Et je me suis inspiré du logo de Milos Archev, qui était le Colossum Gym. C'est là où je me suis inspiré. Et je suis vraiment très content. J'ai un ami à moi très proche au Maroc, qui est graphiste. C'est lui qui m'a fait le logo de Megatron. Et là, pareil, j'ai fait appel à lui. Je lui ai dit, voilà exactement ce que je veux, ça, ça, ça. Et me l'a crié. Et aujourd'hui, le logo, terrible. Tu sais quoi? Il y a 2 jours, j'ai eu même des Japonais qui sont venus me voir, qui ont craqué sur le logo et qui voulaient qu'on travaille ensemble, que je leur donne l'autorisation pour imprimer mon logo et que ça soit vendu au Japon. D'accord. Et les associés sont même intéressés pour faire une franchise. Rien n'est fait, mais je me dis, si ça se fait, c'est juste énorme.
Eh oui.
Juste énorme d'avoir un Willpower Tokyo Japan.
Ah oui, génial.
Tu vois. Donc, je suis très fier. Non, le logo, les gens, ils adorent. Donc oui, j'ai fait la salle. Alors, la salle, pour moi, c'était comme le blog que j'ai fait avec Eric, c'est Retour aux Racines. C'est Back to the Basics. J'en ai marre. Quand j'ai travaillé pendant les 5 ans chez 24 Heures Fitness, c'était juste un enfer pour moi. Parce que même les États-Unis, parce que quand je suis arrivé ici, bah, je m'attendais à aller chez un Gold Gym.
Ouais.
Powerhouse, World Gym. J'ai pas trouvé ces chaînes-là. Donc, je trouve 24 ans, je trouve Billy Fitness. C'est des usines. Tu sais quoi? J'appelle ça, à chaque fois que j'allais travailler, j'avais l'impression d'être dans une, tu sais comment ça s'appelle les maisons où tu mets les vieux?
La maison de retraite?
Maison de retraite.
D'accord. Ah oui.
Voilà. Parce qu'en fait, quand 24 heures avec les assurances et tout ça, ils ont vraiment, je sais même pas s'ils payent ou ils ont vraiment un truc. Donc, tu te retrouves avec papy, mamie aux alentours des machines qui font la sieste, qui dorment. Voilà, ils prennent c'est bien que ces gens-là puissent faire du sport. Mais si tu es salle de sport.
Ouais.
C'est pas une salle de retraite. Donc, quand j'arrive, je sens cette aura, ce climat, ça me donne pas envie de m'entraîner ou d'entraîner.
C'est pas ton énergie, quoi.
Voilà. Mais 24 Heures Fitness m'ont donné la chance de construire mon image, d'être qui je suis, et en même temps d'apprendre l'anglais. Je savais que c'était un passage. Je ne dépassais pas 4 heures par jour. Si tu me demandes aujourd'hui, après 5 ans là-bas, combien je gagnais par heure quand je entraînais les gens, je ne sais pas et je n'ai jamais voulu savoir pour ne pas être dégoûté, parce que la boîte prenait tout.
Ah oui, oui.
Voilà. Ah oui. Mais comme j'avais déjà des clients en Californie, des clients sur l'Europe, on travaille aussi le coaching online, donc j'avais de l'argent qui venait de là-bas, je dis ok, je ne vais pas me tuer à entraîner 8-10 personnes par jour pour $5. Voilà, j'allais pas faire ça. Et aujourd'hui, dans ma propre salle, c'est la même chose. Je ne dépasse pas 4 clients par jour parce que j'aime ce que je fais. Je ne veux pas que ça devienne un travail. Si je te coach pendant une heure, tu t'entraînes, c'est comme si je m'entraîne avec toi parce que mon attention, il est sur toi. Et ça me demande aussi d'énergie. Le client qui va
mentalement, c'est très taxant, en fait, d'être investi autant.
Assise dans ta chaise en train de compter les séries, les répétitions, machin, c'est du gna-gna, ça. Tu peux faire 15 clients dans la journée. Mais quand tu t'es investi, tu es concentré, tu es en train de penser ce qui est le prochain exercice, comment on va travailler, corriger les gens, les motiver, les pousser, je suis dit, après le premier client, je suis presque mort, mais j'ai pas envie de donner 80% au deuxième. Donc, je fais 2 heures, je prends une heure pour manger, me relaxer, je refais encore 2 heures. Et pourtant, cette fois-ci, tout l'argent, il va dans mes poches.
Ouais, ouais.
Mais je ne veux pas que ça soit juste une machine à... Ok, allez, une heure de passé, 80 dollars, une heure
ouais,
de passé.
Parce que la qualité baisse après, si tu commences à faire ça, et du coup, la réputation. Et je pense que y a derrière tout ça, il y a quand même ton image. Tu tiens ton image, la réputation que tu t'es créée derrière.
Je tiens mon image. Parce que pour moi, c'est très difficile de créer une image, c'est très facile de la casser. Et je ne veux pas. Donc, alors, la salle, c'était ça. C'était un concept simple. Être honnête avec les gens, ne pas les prendre pour des chèvres. Par exemple, rien qu'au niveau de mon abonnement, chez moi, tu payes 39 dollars le mois, mais tu n'as pas de frais de dossier, tu n'as pas de frais de consultation, tu n'as pas ceci, tu n'as cela, parce que les autres, pareil, ils t'attirent par 20 dollars, mais quand tu rajoutes tout ça, à la fin, tu te retrouves à 60 dollars par mois. Mmh. Et quand tu veux annuler, c'est toute une mission, il faut appeler, il faut envoyer des emails, il faut faire ceci. Moi, c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas d'engagement, tu veux t'arrêter, tu viens, tu signes un papier et t'arrêtes. C'est tout. Donc, les gens aiment ça. J'ai un prix pour les flics. C'est 30 dollars pour les flics, pour les pompiers, pour les soldats.
Ouais. J'ai vu que tu faisais même une opération avec les vétérans, non? Les
gratuit.
Une association particulière qui est ceux qui sont traumatisés, c'est ça?
C'est toujours pareil, c'est gratuit pour ces gens-là.
Ça, c'est génial, ça, il faut en parler, ça. Mais ben j'invite les gens d'ailleurs qui veulent s'ils veulent faire une petite visite guidée, je crois que sur la chaîne d'Eric de Fitness Mag il y a pas mal de vidéos. Bon, ben déjà, il y a toute ta prépa, donc on voit clairement la salle. Et puis, il y a le commencement aussi, de mémoire.
Il y a le commencement et tout au début des podcasts que j'avais fait avec Eric.
Ça s'appelle American Dream, je crois. C'est ça.
Oui. Ouais.
Et donc, du coup, j'invite à aller voir la chaîne Fitness Mag pour voir ça en détail. Et donc, du coup, là, après la salle, bon, elle s'ouvre. Au niveau stress, mental et tout, comment ça se passe, là?
Ah bah, comment ça se passe? Je suis dit au plafond. Et non seulement... Les filles qui arrivent, c'est du jumel. Donc, les gens qui ont un enfant, arrêtez de pleurer, ce n'est rien. Quand vous avez deux d'un coup, là, vous comprenez ce que c'est la douleur. C'est double joie, double peine.
Ouais.
Mais j'ai une femme extraordinaire parce que elle a géré ça d'une main de maître, parce que elle a compris que voilà, quand la maman donne naissance, il y a des hormones de Wonder Woman qui poussent en elle, donc elle arrive à mieux gérer le stress, à mieux gérer les filles, alors que moi je posais ma tête et pouvais crier toute la nuit, je n'entendais rien. J'étais mort. Donc le stress, bah oui, le stress, parce que moi, faire ça avec John, je pensais que c'était 50-50, qu'on allait tout gérer, mais je me suis retrouvé tout seul. Car lui était vachement occupé avec son boulot.
Ouais.
C'était un peu de stress, mais ça m'a arrangé en même temps, car je pouvais tout contrôler moi-même. J'avais pas quelqu'un, mais non, ça c'est pas brutal. Il avait compris que ça c'est mon domaine. Donc le matériel, c'était moi. J'ai mis 6 mois pour trouver le matériel. Donc c'est beaucoup de temps. Les personnes qui m'ont fait les travaux, c'était des clients à moi.
D'accord.
Tu vois. Donc il fallait négocier tout ça. Donc oui, donc c'était un casse-tête. Et en plus, quand le matériel est arrivé, c'est tous les soirs, j'étais là-bas jusqu'à 1h, 2h de matin, tellement que je suis taré. À dessiner où je vais avoir le coucher, où je vais avoir l'incliné. Je voulais vraiment que tu sois parfait parce que c'est un truc aussi pareil. C'est mon truc méticuleux. Souvent, tu vas dans les salles. Déjà, la majorité des salles ne sont pas complètes. Ou, t'as une machine pour le dos ici, t'as une machine pour dos ici, t'as une machine pour l'épaule. Non. Si t'as envie de faire un circuit training que de dos, tu vas pas passer ton temps à voyager.
Ouais.
Fallait vraiment, voilà. Donc, j'ai construit un couloir que des jambes parce que pour moi, les jambes, c'est la moitié du corps. C'est là où faut avoir le choix au niveau matériel. Les pectoraux, le dos, épaules, bras, cardio. Mais simplement, voilà, entre dessiner et la réalité, c'était pas la même chose. Donc, je passais ma nuit encore avec le tire-palette, à mettre les machines dessus, à les bouger, à l'installer ici, à reculer. Non, ça, c'est pas bon, il faut que je bouge. Donc, j'ai dû mettre au moins 2 semaines à faire ça.
Ah oui. Mais quelle passion en même temps. Mais est-ce que tu penses que tu as pu faire tout ça parce que justement, tu étais moins dans la compétition et tout, cette énergie que tu mettais plus dans les prépas et tout, tu as pu la rediriger là-dedans?
Eh ben, ça, c'est clair et net. Si j'avais encore Si j'avais pas de blessure, si j'avais pas de maladie ou quoi que ce soit, j'aurais jamais fait de business. Parce que j'aurais poussé. Peut-être j'aurais même pas eu le temps de faire les enfants. Parce que arrêter pendant un an et tout ça, tu vas pas arrêter quand t'es au sommet de ta carrière. Donc, c'était un mal pour un bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as toujours réussi à mettre ton énergie quelque part. T'es jamais resté dans le vide, en fait. Après, il y a eu les enfants, la salle. Bon, maintenant, on peut en parler aussi. Il y a eu le comeback. C'est en permanence, il y a quelque chose. Donc, c'est quoi après?
Théo, ça, c'est moi. Tu sais, avant de rencontrer ma femme, travailler la nuit, avoir mes rêves, s'entraîner et rentrer le soir ou le matin chez moi, souvent, je broyais du noir par mon passé. Parce que je me pose toutes les questions. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai peur de ma mère en étant jeune? Pourquoi je souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, c'était très facile de regarder en arrière. Et je remercierai jamais assez ma femme parce que c'est grâce à elle qu'elle m'a dit, écoute, on va arrêter maintenant de pleurnicher, on va avancer vers l'avant. Et j'ai toujours dit que j'avais besoin d'une femme pour me donner un coup de pied pour aller vers l'avant. Parce que tout seul, j'ai jamais voulu voir un psychologue ou quoi que ce soit. J'ai toujours essayé de me guérir et de m'en sortir moi-même. Mais le passé me rattrapait toujours. Donc, la méthode que j'ai trouvée, c'était d'être occupé sans arrêt. Quand je suis pas occupé, forcément, tu as du temps, tu commences à cogiter.
Et c'est là que ça part en vrille.
Absolument. Donc, à partir de là, il fallait que je sois occupé. Tu sais, même en faisant des compétitions. Et une fois que je suis sur scène, je dis, OK, j'y suis arrivé. Maintenant, c'est quoi la suite? Il fallait déjà que j'y pense pour le prochain objectif. Donc, c'est ça qui me rend heureux. C'est d'être occupé sans arrêt.
Ah bah de toute façon, et puis en général, on dit souvent que c'est toujours le chemin qui mène à l'objectif qui permet d'être heureux, quoi, de toujours être sur un chemin.
C'est clair. Et tu sais, par rapport à ce que tu as dit, là, ce retour à la compétition que j'ai faite, et depuis, ça fait 2 semaines, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux. Ma femme le ressent, mes enfants le ressentent, mes amis, parce que j'étais malheureux depuis 6 ans. Même si j'y mets mon esprit dans les enfants, la famille, tout ça, il y a quelque chose qui est très important dans ma vie qui a fait de moi qui je suis, que je ne peux plus pratiquer. Et ça, c'était pas possible. Je dis voilà, j'étais en France, je travaillais comme un acharné, j'avais pas les moyens, j'avais pas beaucoup les connaissances. Si j'ai rêvé du rêve américain des États-Unis, c'était uniquement par rapport à la musculation, de venir ici, m'entraîner dans les meilleures salles, prendre les meilleures supplémentations, avoir les meilleures connaissances.
C'était pas pour les hamburgers, quoi.
C'était pas pour les hamburgers ni les pizzas. Ça va. Donc, maintenant, j'ai tout ça et que tu me dis que je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus progresser, je ne peux plus me projeter vers le futur, à quoi ça sert? Je me suis dit, autant rester. Des fois, je me dis peut-être que j'étais heureux quand j'étais à Sarcelles dans mon 50 mètres carrés. Mais après, j'ai compris que voilà, la vie te donne et te supprime d'autres choses. Il faut accepter. Et moi, je suis croyant et j'ai toujours dit que le bon Dieu doit plus que m'aimer, doit m'adorer pour me mettre des obstacles sans arrêt et m'observer, voir comment j'arrive à les surmonter.
Mais qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Parce que moi, j'ai regardé l'intégralité, je pense, de toutes les vidéos de ta préparation. Et il y a une vidéo qui m'a rendu un peu curieux. C'est ta femme qui parle à un moment donné d'une période où c'était très intéressant de te voir, où t'as changé. En fait, il y a eu un déclic qui s'est passé. T'as accepté quelque chose, que ça allait être plus difficile, que t'allais devoir trouver des nouvelles stratégies là pour bien te préparer. Est-ce que tu peux nous parler de cet état mental où t'es passé de « je tente » et « je sais que je vais le faire » qu'est-ce qui s'est passé?
Donc après ces problèmes-là, le fait de vouloir arrêter, d'avoir des enfants, ça s'est fait. Enchaîner tout de suite sur la salle, ça s'est fait. Deux premières années, c'était un petit peu dur parce que toujours trouver le moyen, comment faire pour que la salle puisse tourner, comment faire pour avoir plus de members, ceci, cela. Mais je continue toujours, j'avais toujours le rêve d'un retour en compétition parce que ce n'était pas fini. Mon corps me dit non, mon esprit est toujours à 200%. Je l'ai pas zappé. C'est pour ça que je continue à m'entraîner. Même si c'était très, très dur, j'ai continué à sentir quelque chose. J'allais à la salle. Mais j'étais pas un homme heureux. J'ai tout ce que je voulais. Théo, comme je te disais au début, c'est très important, pour moi, c'est très important de rêver. Voilà. Il faut être un rêveur, mais tout en étant terre à terre. C'est très important pour moi de travailler, parce que se réveiller tous les jours sans avoir d'objectif, tu retournes une balle dans la tête. Je suis extrême, c'est comme ça. Parce que la vie est banale. Si t'as pas d'objectif, si tu te contentes, je respecte encore, il y a des gens qui se contentent, voilà, de faire leur boulot, comme on dit, c'est métro, métro, de le beau boulot.
Dodo.
Dodo, voilà. des gens qui gagnent 1500 euros par mois et qui sont contents, qui veulent pas plus. Je respecte ça. Ça, jamais été moi. J'ai toujours d'une, il faut pas être satisfait de ce qui est bien. Il faut chercher le meilleur. Ça, c'est moi. Donc la salle a commencé à tourner. Pendant les 5 ans, j'essayais de faire, je faisais tout ce que je pouvais au niveau santé, les analyses, essayer ce médecin, voir celui-là, faire ceci, mais rien. Donc je savais qu'il fallait faire un travail aussi sur le stress. J'étais stressé quand j'étais à Paris. Je passais presque la moitié de ma journée dans ma voiture. Être responsable de la sécurité, c'est très bien. À quel point c'est stressant parce que tout se repose sur tes épaules. Tu gères les mecs, tu gères tout.
Donc ouais, t'as une énorme pression en cas de problème. Si jamais il se passe quelque chose pour le maigre salaire finalement.
Absolument, c'est toi qu'on vient voir. Ouais. Donc j'avais déjà ça. Mais là, avec la salle, je me dis, OK, la salle est hors de question que ça ne marche pas. Parce que tu sais, comment je commence à le voir, ça a toujours été mon rêve. Mais maintenant, père de famille, ça, c'est le futur de mes filles. C'est ce que je veux dire. Et ça, encore ma réputation. Quand Mousse fait quelque chose, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, il y a une pression énorme. Et là, c'était, j'arrivais pas à contrôler. Je voyais mon comportement qui changeait avec ma femme. Je partais au quart de tour pour un oui, pour un non. Le fait de ne pas être bien dans sa peau parce que tu n'es plus ce que c'est, tout ce que tu as été. Voilà. Je m'en fous en quelque sorte de l'image. Je sais que les gens ne me respectent pas parce que j'étais champion ou parce que j'ai un certain physique. Non, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que j'ai envie encore. Mon chef-d'œuvre n'est pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Et que quelque chose décide à ma place de m'arrêter, c'était pas possible.
Ouais.
Donc, au fur et à mesure de ça, ça fait déjà 5 ans, hein. J'ai 44 ans. Je vais faire comment? Je vais continuer à pousser, essayer de trouver. Les médecins ne trouvent pas. Et ben, ce que je vais faire, je vais montrer à la douleur que je suis plus fort que toi. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Je décide, OK, je reviens à la compétition. À partir de là, encore, quand je décide de faire quelque chose, je suis instoppable.
Et là, est-ce que ton comportement, il a changé? Tu disais justement que tu commençais à devenir agressif et tout. Quand tu as pris cette décision, est-ce que psychologiquement, il s'est passé quelque chose dans...
Ça a changé, je suis devenu le Mousse conquérant que j'ai été.
Ouais.
Conquérir les choses.
Donc en fait, c'est ce qui te manquait, quoi.
C'est le déclic. Tu sais pourquoi? Encore par rapport à ce que je disais au début, c'est savoir que je vais à la salle, que je ne pouvais pas... m'entraîner comme je voulais. Déjà à l'époque, quand je donnais 110%, je n'étais pas satisfait. Comment tu veux qu'avec 60%, je vais être satisfait et me mentir, me dire que le jour de la compétition arrive, je vais gagner? C'est encore, voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse. Et pas son temps à prendre des photos et des selfies, et pas son temps à tricher avec leur diète, et pas son temps à ne pas récupérer convenablement et penser être les meilleurs après le jour J. Non. Donc moi, je savais que tout se passait à la salle. Et là, ça, j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à m'entraîner parce que chaque jour est une surprise. J'y vais travailler les pectoraux, mais je ne sais pas si mes épaules sont OK. Je ne sais pas si mes coudes sont OK. Donc, à partir de là, je suis déjà frustré à la base. Je vais à la salle, mais j'ai pas cette happiness, ce côté joyeux. OK, aujourd'hui, je vais y aller. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais donner le moyen. J'ai l'envie de donner le maximum. Mais mon corps me dit autre chose. Ouais. Mais simplement, quand j'ai décidé de revenir à la compétition, que les mois ils étaient calculés, eh ben là, il fallait encore plus serrer les dents et plus essayer de zapper la douleur. Voilà. Pas l'éliminer complètement, parce que faut être pas stupide non plus, parce que tu l'élimines complètement, bah, tu vas au mur. Il y a des gens où il faut soigner le mal par le mal, donc ça a jamais été moi. Mais disons que voilà, j'ai positivé beaucoup plus.
Et dans ton quotidien, tu as réussi à trouver des techniques pour justement diminuer ce stress. Je sais pas, on parle des fois de méditation. Moi, je médite beaucoup, par exemple. Hein. Mais est-ce que tu fais des bains, de la thérapie, je sais pas, manuelle, des choses comme ça ou...
Je crois entendre Eric.
Ah ouais.
Eric m'a beaucoup parlé de ça. Eric m'a aidé dans le sens où, par rapport à faire très attention à la respiration.
Ouais, cohérence cardiaque.
Voilà, ouais. Je sens que ça commence à arriver. J'ai prié.
D'accord.
Tous les matins dans mon chemin pour aller à la salle, je fais mes petites prières.
Et voilà. Tu sens que ça t'aide beaucoup pour tout ce qui est stress, cortisol et tout?
Tu sais quoi? Tu te rappelles des premiers interviews que Jean-Claude Van Damme a donné où il a commencé à utiliser le mot aware, les gens qui se font de sa gueule. Et ben, en fait, j'ai commencé à être aware de ce qui se passait autour de moi, de comment j'allais sentir le stress. D'accord. Au moment où je sentais que j'étais conscient de ça, quand j'étais vraiment focalisé dessus, quand je sentais que ça arrivait, le coup de stress montait, c'était là qu'il fallait retourner sur terre, respirer, se calmer et ne pas laisser ce diable, ce démon prendre le contrôle.
Et du coup, ça a dû te servir dans les derniers jours avant ton passage sur scène, de cette gestion du stress. Parce qu'on le voit hein, dans la chambre d'hôtel, un peu miteuse d'ailleurs, avec la moquette au mur et tout, là, on voyait. T'as pas l'air stressé, t'as l'air. En fait, on a l'impression que le sac est crevé, quoi. Tu vois, il y a tout qui. Pourtant, t'es pas encore passé sur scène.
C'était une illusion parce que j'essayais. C'était en moi, mais j'essayais vraiment de calmer, de me répéter. C'est pour ça que j'ai le vendredi soir, j'ai pas dormi. Et quand je sentais que ça montait, même clair, le fait de me poser des questions, je savais qu'il était inquiet, je savais qu'il était stressé, qu'il avait peur pour moi de stresser. Mais quand tu me poses des questions, comment ça va être ça? C'est que ça me stresse encore plus. Pourquoi tu me poses des questions? Si tu me poses des questions, c'est que tu sens que je suis stressé. Ouais. Et c'est un cercle. Tu vois, donc je disais, non, t'inquiète pas. Donc je dis, voilà, ok, hey, c'est un comeback, tu l'as réussi, tu n'as pas lâché, tu es content de ton physique. Là, à la fin, il va pas bouger et tu vas leur montrer de quoi t'es capable. Donc c'était, il fallait que je me dise ça. Sans arrêt. Et ne pas me laisser intimider par personne. Comme j'ai toujours dit, je suis mon pire ennemi. Le jour de la compétition, si je me mets dans le local avec les athlètes, mais ils sont tous mieux que moi, mes yeux regardent partout. Ça y est, je me transforme, claquant les doigts, rien qu'avec le regard et le côté psychologique. À partir de là, je dis non. Eux, ils me regardent tous parce qu'ils sont impressionnés.
Ouais.
Parce que le fait que les gens commençaient à venir me voir, me serrer la main, c'était magnifique. Et tu te dis, voilà, c'est ça qu'il faut que tu gardes dans ton esprit.
Ouais, ouais.
Comment tu regardes, comment les gens te parlent, comment les gens s'approchent de toi.
Ouais, donc, c'est le conditionnement après.
Bien sûr. Mais tu sais, il y a des coachs pour ça.
Et t'as déjà fait appel à ça, toi, ou pas du tout?
Non. C'est clair. C'est marrant. Claire m'a dit, peut-être que pour ton prochain concours, ce serait bien de tomber sur quelqu'un, pas elle, mais pour me faire un travail.
Mais je pense que tu t'es bien coaché jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Mais je suis pas encore satisfait. Tu sais, deux fois, j'étais vraiment bien. Donc, l'émeraude. Parce que aucun stress. J'étais sûr de moi. Alors là, tu pouvais pas me faire bouger. La première fois en 2002, mais c'était avec l'aide chimique car j'avais pris des amphétamines.
Ah oui, d'accord.
Je savais pas d'ailleurs que c'était des amphétamines. Et là, je peux dire, mon pote, alors là, j'étais imbattable. Tu pouvais mettre Ronnie Coleman d'un côté, John Cotter d'un côté, j'étais meilleur qu'eux. Cette assurance, tu vois. Parce qu'en fait, ça multiplie ta volonté par 10. Ce produit-là s'appelait le Captagon, que énormément de cyclistes ont prôné. Et à l'époque de Serge Nubret, ils ont prôné beaucoup pour s'entraîner ou pour essayer de chasser, en fait, tout ce qui était stress et tout ça. Et c'était juste énorme. Énorme.
Et donc, du coup, t'avais réussi, donc celle-là, bon, sous les chimiques, mais l'autre, où t'as bien réussi à te préparer mentalement, t'avais pas de douleur aussi. C'était une prépa sans douleur.
Non, parce que tu sais quoi? S'il y a bien de toute ma vie, j'ai 44 ans, donc sur les 44 ans, 2012, je n'ai jamais ressenti un bonheur pareil. Tout allait bien. Tout allait bien dans ma vie. Tu sais quoi? Tous les jours, je me réveillais, je me disais, mon Dieu, merci pour cette vie. Je venais d'arriver aux États-Unis, le rêve d'Américain démarrait, j'apprenais l'anglais, je m'entraînais pour un concours, je gagne. Je commence vraiment à faire une sacrée réputation. Je commence à être connu comme un des meilleurs coachs ici. Je suis invité dans les concours, en guest posing. Je commence à me sentir, je vis enfin, j'existe. Surtout par rapport à mon milieu. J'étais plusieurs fois champion en France. J'ai jamais rien eu au retour. Ouais. À part m'inviter à vivre ma vie, sans des thèmes à la con et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est grâce à mon sport. Grâce à ce que j'ai rêvé, comme je dis souvent, tu sais, hein, quand j'étais portier, il y avait des fois, j'avais les larmes aux yeux. Et ça, tu sais très bien, ça, on va se comprendre. Parce que tu sais, quand t'es portier, t'es un bon à rien. Les gens t'en regardent d'autant bas, c'est comme si t'étais juste un connard, un mec qui s'est tapé sur les gens, refusé les gens, t'as pas fait d'études, tu connais rien. Mais moi, au fond de moi, je savais. Vous pouvez se foutre de moi maintenant. Moi, je sais, c'est un plan. J'ai un plan derrière moi. Je sais pourquoi je suis là. Mais il y a des fois, la fatigue, le froid, des gens qui te prennent la tête, tu perds ça. Tu dis, est-ce que je suis bon qu'à ça? Combien d'années je vais encore faire ça? Quand est-ce que je vais avoir la lumière enfin? Quand est-ce
surtout,
que
les... ouais. Quand tu vois des personnes à côté de toi, des collègues qui te disent « j'ai fait comme toi, hein, j'ai fait ça au début, c'était juste pour passer le temps et ça fait 30 ans que je fais ce métier », moi c'est ça qui me mettait un coup. Je me disais « merde, j'ai pas envie de finir comme eux ». Même si je les respectais, j'avais pas envie de finir comme eux. Et ça c'est hyper angoissant parce que quand on n'a pas fait d'études, moi non plus j'ai pas fait d'études, on se dit c'est ça pour l'instant ou rien pour manger, donc c'est assez difficile à accepter, ouais.
C'est clair, parce que oui, quand tu fais que ça, après tu vas faire comment? Tu vas arrêter, reprendre les études? Non, tu sais que c'est un cercle vicieux. Mmh. Et surtout, voilà, je veux dire, comment tu t'es bien payé, comment faisant la sécurité, tout dépend quelle sécurité tu fais. Bah, c'est clair, si tu fais en supermarché, bon, malheureusement, ça gagne pas grand-chose. Mais dès que tu commences à faire d'accompagnement ou t'es responsable, si cela, c'est autre chose. Tu sais, j'ai fait d'accompagnement, parce qu'on dit souvent protection rapprochée, mais c'est d'accompagnement avec des hommes d'affaires russes, des Égyptiens et tout ça, où je gagnais très très bien ma vie. Mais à la fin, c'était pas l'objectif. Je dis, OK, je gagne très bien ma vie, mais je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus manger, je fais comment? Des fois, tu es 2 heures avec le client, au restaurant, on se balade, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que c'est ça que je voulais? J'ai arrêté. Parce que, OK, l'argent, c'était bien, mais je ne pouvais pas faire le but de base. Je ne pouvais plus.
Tu n'avais plus cette liberté, quoi.
Bien sûr. Mais voilà, encore, tu vois, si j'avais pas vraiment d'objectif, si t'étais pas précis, parce que j'avais cette flamme, je savais qu'un jour, j'allais réussir, mais je ne savais pas quand. Je ne savais pas comment. Après, comme je l'ai dit, je l'ai répété, il faut avoir un petit peu de chance, être là au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, parce que voilà, je veux dire, mon rêve américain, ça a été énormément poussé par ma femme. Mmh. Elle regarde par la chance, elle aurait pu être expatriée, je sais pas, moi, en Chine, en Inde, en Turquie. Elle est expatriée au pays qui m'a toujours fait rêver. OK, elle n'a pas été expatriée en Californie, mais bon, je suis quand même aux États-Unis. Donc, tu vois, et après, par mon envie de réussir et de prendre ma revanche dans la vie. Parce que tout ça, pour moi, c'est une revanche sur la vie. Mmh. Comment je suis né? Comment ma mère m'a conditionné de faire des bonnes études, d'être médecin un jour, d'être un avocat comme toutes les mamans et tout ça, et qu'elle me laisse en avant? J'ai découvert la vie en avant parce que j'étais tellement protégé, j'étais dans un cocon, tu sais, je ne connaissais personne dehors, j'avais pas d'amis, c'était l'école, la maison. Pendant les vacances d'été, j'avais une semaine de vacances entre guillemets où je jouais avec un petit goldorak, avec un bras cassé, et le reste c'était d'apprendre les bouquins de l'année prochaine. Donc une fois qu'elle est morte, en avant, pas de père, la grand-mère qui était malade, donc c'était dur pour moi. Mais tu sais, Tout ce que j'ai aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, je peux tirer chapeau qu'une seule personne, c'est moi-même. Car je me suis construit moi-même. Je n'ai pas eu de famille ou de père pour m'apprendre des choses. Je l'ai fait moi-même avec d'autres personnes. Donc, mon cercle de gens qui ont fait de moi aussi qui je suis, c'est très important aussi. Ouais. Tu vois?
Et donc, c'est bien d'arriver à le... Toi, t'arrives à en parler. Je pense que c'est pas arrivé tout de suite. C'est peut-être aujourd'hui que tu arrives facilement à être reconnaissant envers toi et pas... Est-ce qu'il y a des périodes de ta vie où tu te disais... je sais pas comment dire, mais pour l'instant, c'est des coups de chance, c'est des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, des coups de chance, tu te rends compte que c'est quand même tes actions qui ont fait que t'en es arrivé là.
Je savais que c'était un coup de chance. Rien qui m'est arrivé, c'était un coup de chance.
Ouais, tu t'es toujours battu pour, quoi.
Absolument. Tu sais, ce serait trop long et les gens ne vont pas comprendre. Il n'y a que les gens qui sont vraiment très, très proches de moi... qui savent ce que j'ai fait, ce que j'ai subi, à quel point j'ai tenu dans des moments très très difficiles parce que j'avais cet objectif là qui me poussait. Continue, ça va payer un jour. Continue, ça va payer un jour. Et c'est pour ça qu'on dit, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut jamais perdre espoir. Quoi qu'il arrive, il faut se battre encore plus dur. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a encore des gens qui veulent tout, mais sans se bouger. Il y a des gens qui rêvent, mais sans rien faire. Il y a des gens qui attendent juste qu'on leur donne les choses. Non, et quelle satisfaction quand tu obtiens ce que tu veux parce que tu as travaillé dur pour et que ça ne t'a pas juste été donné. C'est venir ici, pas d'anglais, pas d'amis, pas de famille et faire ce que j'ai fait, c'est juste énorme.
Mais ça, ouais, il faut en être fier de toute façon, t'as raison. Et puis là, par rapport à le comeback, le comeback, c'est vraiment.
Euh Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.